Éléments historiques. C'est en croyant rallier les Indes par une voie maritime inédite traversant la mer Océane que le navigateur génois Christophe Colomb, financé par Isabelle Ière, reine de Castille, et son mari Ferdinand II, roi d'Aragon, accoste fortuitement dans les Caraïbes en octobre 1492, après être parti de Palos de la Frontera en Espagne environ 3 mois plus tôt. Convaincu d'avoir atteint son objectif, il baptisera les autochtones « Indiens », un nom qui leur restera malgré sa méprise. L'année suivante, son retour à la cour est triomphal. Ses cales sont chargées de découvertes, zoologiques et botaniques notamment, mais surtout d'or et d'argent. Cette expédition fructueuse fait de lui un personnage célébré et lui permet d'obtenir les moyens de repartir auréolé du titre d'amiral de la mer Océane, gouverneur et vice-roi des Indes. La promesse de nouveaux territoires à conquérir, mais surtout les considérables richesses que semblent receler ces contrées, vont déclencher un mouvement dont les répercussions influenceront profondément le développement du continent américain, trouvant un écho jusqu'à nos jours. Lorsque Christophe Colomb meurt en 1506, à l'âge de 55 ans, il aura connu la disgrâce, car si ses 4 traversées restent des succès, ses talents de gouverneur se sont révélés plus discutables. Et on lui retirera même ses titres en lui interdisant de faire escale sur les îles qu'il avait administrées. Il s'éteindra toujours convaincu d'avoir accosté en Inde. Il faudra attendre Amerigo Vespucci, un autre navigateur d'origine italienne, engagé au service de la couronne d'Espagne, pour que la réalité du Nouveau Monde soit découverte. Ce continent se verra baptisé « Amérique » en 1507, en référence à son prénom. Pour prendre la mesure de l'incroyable impact qu'a eu l'or rapporté du Nouveau Monde, il est nécessaire de resituer le contexte historique. Lorsque Christophe Colomb rentre de sa première expédition, ce métal est relativement rare en Europe. Cela s'explique par le nombre plutôt réduit de mines sur le vieux continent, par rapport à d'autres zones du globe comme l'Afrique ou l'Asie, mais aussi parce qu'à cette époque, plus de 75% des échanges commerciaux reposent sur le troc. L'or n'est donc pas encore à l'apogée de sa circulation commerciale, et il est loin d'avoir acquis sa pleine puissance économique. L'arrivée massive d'or venu du Nouveau Monde va grandement contribuer à changer la donne. Le nombre et l'ampleur des gisements aurifères, découverts de l'autre côté de l'océan Atlantique, provoquent une véritable ruée maritime. Dans le sillage des conquistadors qui amorceront sa confiscation et son exploitation, des dizaines d'expéditions sont financées pour aller chercher fortune. Si seulement 3 navires effectuent la première traversée en 1492, ce sont plus d'une centaine qui font le voyage moins de 5 ans plus tard. Des liaisons régulières se mettent en place. Les bateaux les plus chargés reviennent avec en moyenne 6 tonnes d'or à chaque voyage. Certains en transportent jusqu'à 30 tonnes. Et le pillage du continent, par la prise des possessions aztèques et incas, mais aussi par l'exploitation forcée de mines très productives, va ainsi permettre de rapporter plus de 50 tonnes par an, doublant dès la deuxième année la quantité d'or détenue jusqu'alors dans l'ensemble de l'Europe. Cette manne, au départ constituée d'objets et de minerais, sera très rapidement traitée sur place et transformée en doublons avant la traversée pour dissuader les pillards et les pirates de se l'approprier sans traçage possible. Car ces fortunes transportées éveillent vite les convoitises, ce qui entraîne une recrudescence des attaques et une augmentation de la flotte illégale. Les fortunes qui transitent par voie maritime engendrent l'âge d'or de la piraterie. En moyenne, entre les années 1500 et 1600, plus de 20% des galions espagnols et portugais sont attaqués, rançonnés ou tout simplement entièrement raflés avec l'ensemble de leur équipage. Dès les années 1500, les lois se durcissent. Les pirates sont exécutés sur simple suspicion, souvent par pendaison, et exhibés sur les ports pour servir d'exemple. Mais l'appât du gain surpasse la crainte de la sentence, et aux pirates s'ajoutent bientôt les corsaires. Ces derniers ne sont pas supposés piller pour leur propre bénéfice, mais pour celui du royaume qui les emploie. Ce sont des voleurs officiellement accrédités par un pouvoir politique dont ils servent théoriquement les intérêts et les valeurs. C'est ainsi que, prenant pour prétexte le scandale que représente la colonisation brutale des terres et le pillage des richesses, l'Angleterre, mais aussi la France, la Hollande, le Portugal et bien d'autres, décideront de s'attaquer aux chargements espagnols venus d'Amérique afin de rétablir la justice. La durée d'une traversée à la voile pour des navires de gros tonnage était en moyenne de 3 mois, suivant les saisons et les conditions météorologiques. Près de 3 bateaux sur 10 ne revenaient pas, soit à cause des tempêtes, soit des actes de piraterie. On dénombre aussi plusieurs galions dont les équipages, mutinés ou complices de leur capitaine, ont choisi de disparaître avec leur précieuse cargaison pour s'établir sur l'une des innombrables îles des Caraïbes. Les équipages étaient généralement composés d'une trentaine de marins, tous grades confondus. La fonction des bateaux a fait évoluer leur structure. Au départ, navires d'exploration, ils n'emportaient que les vivres et les armes à l'usage de ceux qui vivaient à bord. Mais rapidement, les cargaisons de plus en plus lourdes et précieuses les obligèrent à s'adapter. Les plus grands galions nécessitaient environ 60 membres d'équipage. Ils étaient dotés de canons pour se protéger des pirates et de cales élargies pour offrir un maximum d'espace de stockage. Une traversée exigeait au minimum 4 tonnes de nourriture, avec presque autant de vin ou d'alcool, et pouvait transporter jusqu'à 20 tonnes de fret. Dès 1595, pour assurer la sécurité des navires et diminuer les risques de perte des armateurs, un système de convoi est mis en place. Cependant, contre toute logique, certains galions refusent d'y prendre part, et les registres de marine espagnole notent qu'ils peuvent mettre 3 semaines de plus que ceux qui circulent à plusieurs pour rentrer. On les soupçonne bientôt de participer à un trafic avec une possible escale en Irlande, en Angleterre ou en Écosse. En 1672, les soupçons sont loin d'être levés. 3 baies de grande profondeur sont identifiées sur les côtes écossaises et dans les Hébrides. La couronne espagnole dépêche 5 enquêteurs que leurs investigations conduiront en Écosse, où ils disparurent sans que l'on retrouve jamais leurs traces. Dans les années 1750, 6 Gallois seront appréhendés et pendus pour avoir fait croire qu'ils avaient trouvé une mine d'or dont ils extrayaient un étrange minerai. Leur mine n'était qu'un leurre. Personne ne sait d'où venait l'or, qu'ils refondaient en le mélangeant grossièrement à de la terre, en prétendant qu'il était issu de leur filon fantôme. Sans doute un des premiers cas de blanchiment de l'histoire. L'expédition réussie de Christophe Colomb ouvre de nouveaux horizons géographiques. Mais c'est finalement ce qu'elle a rapporté qui provoque un engouement bien plus important dès son retour. Communément appelé conquistador, conquérant en espagnol et en portugais, ces hommes vont se lancer à la conquête du nouveau continent pour le coloniser. Même si la volonté d'évangéliser et d'apporter la civilisation est souvent présentée comme motivation officielle, la réalité est bien moins humaniste. Ces aventuriers, souvent issus de la petite noblesse espagnole ou portugaise, y voient un potentiel en termes de terres et de richesses. La profusion d'argent et d'or ne fait que renforcer la ruée et les excès qui en découleront. Si certains sont passés à la postérité, parfois pour de sombres raisons, les conquistadors espagnols et portugais envahissent littéralement les nouvelles contrées en se les appropriant. Parmi les plus célèbres, on peut citer Juan Ponce de León, Vasco Núñez de Balboa, Diego Velázquez de Cuellar et Hernán Cortés. Les registres de navigation indiquent qu'en moyenne, seuls 4% des colons étaient composés de religieux, prêtres missionnaires et fidèles, pour 96% de soldats, mercenaires et différents corps de métiers qui se voyaient dans la plupart des cas proposer une rémunération sur ce qui serait récolté sur place. Très vite, des voix s'élèvent pour critiquer la violence de la colonisation et le sort scandaleux réservé aux indigènes, qui en plus d'être réduits en esclavage, sont aussi frappés par des maladies jusqu'alors inconnues sur leur continent, grippe et variole notamment, qui décimeront une part importante de leur population. Les récriminations contre le comportement des colons émanent particulièrement de royaumes ou de puissances jalouses de l'avantage territorial et financier que sont en train de prendre Espagnols et Portugais. Il faudra attendre 1540 pour que les premières lois punissant les abus et obligeant les administrations coloniales à la justice et la compassion soient promulguées. 2 siècles de plus seront nécessaires pour que le pape Benoît XIV dénonce par la bulle Immensa Pastorum les abus des conquistadors en 1741. Si les réactions officielles se révéleront tardives et n'entraveront jamais le pillage des métaux précieux et des richesses des terres captées, quelques personnalités influentes se sont par contre manifestées très tôt pour dénoncer l'hypocrisie des causes et l'inhumanité des comportements. L'une des plus marquantes et des plus virulentes est sans conteste Bartolomé de Las Casas, 1474-1566. Missionnaire dominicain, historien, écrivain, il fut l'un des plus fervents défenseurs des droits des natifs. D'abord propriétaire d'une exploitation sur l'île d'Hispaniola, Haïti, il est ordonné prêtre en 1512. Prenant conscience des abus commis par les colons, il commence à remettre en cause le système reposant sur l'utilisation du travail des Indiens, puis renonce à sa propre exploitation pour prêcher contre l'injustice et la tyrannie avec lesquelles ils sont traités. Il va passer 50 ans à plaider la cause des autochtones, prônant l'arrêt des travaux forcés et la mise en place de lois égalitaires pour la réglementation du travail. Son combat trouvera son apogée lors de la controverse de Valladolid, un débat politique et religieux voulu par Charles Quint, qui verra s'opposer Bartolomé de las Casas à Juan Ginés de Sepúlveda, fervent adepte de la thèse qui considérait les natifs comme des esclaves naturels. En parallèle de son action en faveur du respect et du rétablissement de la liberté des autochtones d'Amérique, Bartolomé de las Casas publiera plusieurs textes de référence, dont le principal reste sa dénonciation des aspects destructeurs de la colonisation. Il se révélera également l'observateur hors pair et l'historien de cette période charnière. William Thornton, 1759-1828, second d'une fratrie de trois, est né en troisième génération d'immigrés écossais sur Jost Van Dyke, une des îles Vierges britanniques situées dans les Caraïbes. Esprit éclectique, montrant très tôt un grand intérêt pour le dessin et les beaux-arts, Thornton étudie la médecine à l'Université d'Édimbourg, en Écosse, tout en dessinant la flore et la faune, des châteaux, des paysages et des scènes historiques. Il se passionne également pour la mécanique et l'architecture. Il deviendra le premier architecte du Capitole des États-Unis d'Amérique, achevé en 1812, l'un des plus emblématiques et des plus célèbres bâtiments américains, avec son monumental dôme, sa bibliothèque de référence et l'ensemble architectural dont les ailes abritent le Sénat et la Chambre des représentants. Le projet de ce haut lieu démocratique aurait permis à Thornton de rencontrer le troisième président américain, Thomas Jefferson, qui accomplira plusieurs voyages en Europe afin de chercher un appui financier pour son jeune pays. D'après les recoupements de sources documentaires fiables, l'un de ses déplacements l'amènera au nord de l'Angleterre, très certainement en Écosse. Toute sa vie durant, malgré le coût prohibitif du voyage, William Thornton continuera à se rendre régulièrement sur la côte ouest écossaise, dans un village dont il ne précisera jamais le nom, mais qu'il mentionne dans ses notes et mémoires comme le berceau de sa puissance de travail et de son courage, fort de l'héritage moral que porte sa famille. Il écrit également qu'il lui est impossible de trouver le repos de l'âme sans revoir les paysages qui ont vu grandir son clan et où ses ancêtres ont découvert le prix de la vie et celui de la vérité. Très engagé dans la lutte contre l'esclavage, Thornton fut aussi le premier directeur de l'Office américain des brevets. Le 14 juin 1954, au petit matin, le corps d'un homme décédé de cause inconnue fut retrouvé sur la côte de l'archipel écossais des Hébrides. Son identité ne fut pas établie, mais ses caractéristiques physiques amenèrent les enquêteurs à le considérer comme étant d'origine espagnole. L'affaire aurait été classée comme un simple accident si l'on n'avait pas trouvé sur lui une pièce d'or frappée sur une seule face, celle d'un doublon espagnol, le revers étant parfaitement lisse. Cette incongruité numismatique conféra une autre dimension au cas, d'autant qu'en reconstituant partiellement l'emploi du temps de son séjour, la police découvrit que l'homme avait visité quantité de grottes côtières très nombreuses dans cette région. L'étrange demi-doublon, daté par les spécialistes des alentours de 1595, fut classé durant 30 ans comme pièce à conviction. À l'issue de la période de prescription, il fut confié au Scottish Maritime Museum de Glasgow, alors tout juste créé. Il y fut mystérieusement dérobé moins d'une semaine après son transfert, sans que l'affaire ait jamais été élucidée depuis. Bien avant les flux financiers planétaires et informatisés que nous connaissons aujourd'hui, l'argent était déjà une absolue nécessité pour ceux qui souhaitaient mener de grands projets. Lorsque les puissances économiques ont émergé sur le globe, et surtout quand les soubresauts de l'histoire ont agité civilisations, royaumes et nations, les sources de financement sont devenues un enjeu crucial. Seules des caisses pleines permettaient de conduire des réformes et des développements et d'effectuer des prises de pouvoir. C'est toujours le cas aujourd'hui, comme le prouve l'importance du financement des campagnes électorales. C'était encore plus vrai pour les guerres d'avant le XVIe siècle, à l'époque où les armées étaient essentiellement composées de mercenaires qu'il fallait recruter et retenir pour les empêcher d'être débauchés par l'ennemi. Sous toutes les latitudes, monarques, empereurs et autres puissants ont tôt ou tard été contraints de trouver des financements pour assurer leurs projets, et parfois même leur survie. Le meilleur moyen était de faire appel aux alliés économiques comme on le ferait sur les marchés boursiers. Cependant, si la solution pouvait paraître évidente, les conséquences de la dépendance créée pouvaient se révéler dramatiques. Les cas sont si nombreux et variés qu'il est impossible d'en résumer le schéma, mais le fait est que de tout temps, des puissants ont mouillé la chemise et usé leurs semelles en quête de liquidités. Ils se lançaient alors dans la tournée des fortunes connues, légales ou pas, pour obtenir tout ou partie de leur soutien sonnant et trébuchant. La liste des monarques, seigneurs, empereurs et dignitaires des argentés qui se sont lancés dans ces collectes de fonds est impressionnante. On peut par exemple citer le dernier empereur du Japon, Hirohito, qui en 1938, ayant tout juste pris ses fonctions, s'est lancé dans une tournée qu'il a effectivement conduit en Écosse. Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, fit de même pour protéger l'indépendance de son jeune pays et financer la révolution américaine. On peut également citer Simon Bolivar, l'empereur Napoléon, le roi d'Italie Victor Emmanuel II, ainsi que plusieurs membres de la dynastie des Habsbourg qui ont fait le voyage en personne ou ont envoyé des émissaires sur la côte ouest de l'Écosse. Personne n'est en mesure de dire ce qu'ils ont obtenu ou pas. Au cours de l'été 1588, après leur défaite face à la marine anglaise, les navires survivants de l'armada espagnole se retrouvèrent contraints de rentrer chez eux en contournant les côtes nord et ouest de l'Écosse. Plusieurs navires sombrèrent le long de ce littoral extrêmement dangereux. À la fin du mois de septembre 1588, le San Juan de Sicilia, gravement endommagé, jeta l'ancre dans la baie de Tobermory, un modeste port situé au nord de l'île de Mull, avec l'intention d'effectuer des réparations. Ce navire marchand était encore chargé de 26 tonnes de frais, dont la nature fut tenue secrète. Son équipage était composé de 63 personnes, et un détachement de 245 soldats se trouvait également à bord du navire armé de 28 canons, dont deux de siège. Le capitaine négocia les conditions de son escale avec Lachlan More MacLean of Duart. Il fut convenu que l'Écossais fournirait vivres et matériaux à condition de pouvoir disposer du détachement d'hommes d'armes dans son combat contre le clan MacDonald voisin. La lutte prit dès lors une tournure plus politique, impliquant la couronne britannique, et les affrontements se prolongèrent jusqu'à ce que, sans raison connue, le détachement espagnol se détourne des opérations de MacLean pour regagner son bord. Le navire passa plus d'un mois dans la baie, et le fait que les gradés dînaient dans de la vaisselle d'argent eut le temps de se répandre dans la région. La probable indiscrétion d'un marin ivre dans une taverne laissait entendre que le San Juan de Sicilia transportait une fortune en or, parce que le trésorier payeur des troupes espagnoles se trouvait à son bord. Un soir de novembre, le galion explosa. Son gaillard d'avant fut intégralement soufflé par la violence de la déflagration. Le bateau prit feu et finit par sombrer. Plusieurs pistes furent envisagées. Un accident lors du déplacement de barils de poudre, un sabordage ou les conséquences d'une tentative de prise de contrôle forcée du navire et de son or par MacLean, à laquelle l'équipage aurait résisté. En 1608, Archibald Campbell, septième comte d'Argyll, revendiqua les droits sur l'épave. Et en 1645, une opération de renflouement partiel permit de récupérer 8 canons. En 1665, le neuvième comte d'Argyll organisa une série de plongées, très complexes à l'époque puisqu'aucun matériel dédié n'existait, qui permit de récupérer d'autres armes, mais aucun doublon. La légende de l'or englouti dans la baie fut loin de s'éteindre pour autant. Depuis, l'épave a fait l'objet de nombreuses fouilles, officielles ou clandestines, qui n'ont rien donné de probant. La tentative la plus récente eut lieu en 2014. Elle fut parrainée par le 13e duc d'Argyll. L'épave du galion gît toujours au fond de la baie de Tobermory et garde son mystère. L'île au trésor n'est pas exactement là où on pourrait le croire. D'une longueur totale de près de 19 000 km, en incluant ses plus de 900 îles de toute taille, la côte écossaise est réputée être l'une des plus dangereuses du monde. Sa façade ouest met depuis toujours en péril les embarcations qui s'en approchent. Des courants extrêmement puissants, des vents souvent violents, des tempêtes légendaires, ainsi que des champs de récifs déchiquetés à demi immergés, en font une zone qui exige pour y naviguer une véritable expertise et pas mal de chance. Le réseau de phares y est logiquement l'un des plus denses qui soit. Et c'est à une famille que l'on doit la construction de la plupart d'entre eux. Une véritable dynastie de bâtisseurs passionnés, les Stevenson. En 1786, le Northern Lighthouse Board fut créé pour coordonner le balisage et la sécurisation de ce littoral à haut risque. En 150 ans, quatre générations de Stevenson auront bâti 117 phares sur les 219 que compte la côte écossaise. Robert Stevenson, puis Alan Stevenson, David Stevenson et pour finir Thomas Stevenson se sont consacrés à la construction de ces repères vitaux pour la navigation, de jour comme de nuit. Durant leurs travaux, ils ont d'abord été confrontés aux difficultés techniques d'implantation de leurs phares, souvent érigés sur des sites complexes d'accès ou même au large, sur des îlots submersibles ou isolés. Ils ont aussi été entravés par les sabotages répétés des naufrageurs, encore très actifs au XVIIIe siècle, qui dégradaient les chantiers pour continuer à installer leurs faux feux capables d'attirer des navires marchands vers des aires de naufrage, afin d'en piller les cargaisons. En un siècle et demi, les Stevenson ont multiplié les exploits techniques. Robert Louis Stevenson, le célébrissime auteur de L'île au trésor et de L'étrange cas du Dr. Jekyll de Mr. Hyde, est le fils de Thomas Stevenson, dernier bâtisseur de la famille, dont il ne prendra pas la suite aux grandes dames des siens. Sa santé fragile et son tempérament rêveur le pousseront à renoncer à une carrière toute tracée d'ingénieur pour se lancer dans de grands voyages, puis dans l'écriture. La dynastie de bâtisseurs y aura perdu ce que la littérature a gagné.